20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Ce n'est pas lui en général qui porte la mélodie au sein du quatuor. Et pourtant, Gabriel Le Magadur, second violon du quatuor Ebène, sait merveilleusement faire chanter son instrument, comme il nous le prouve dans un superbe album tout juste sorti sous le label Appassionato autour d'un programme de musique française enregistré avec Franck Bralet et le quatuor Agathe, son premier album de soliste. Et il sera avec nous, Gabriel Le Magadur, tout à l'heure pour en parler. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. L'Américain Roderick Cox vient d'être nommé directeur musical de l'Opéra Orchestre National de Montpellier-Occitanie. Il succédera ainsi à compter du septembre prochain à Michael Schoenwandt et deviendra à 39 ans le plus jeune chef permanent de l'Orchestre Montpelliérain. Roderick Cox est lauréat du prix de direction Sir Georg Scholti de 2018. Ce chef américain qui vit aujourd'hui à Berlin est invité par de prestigieux orchestres internationaux et a fait récemment ses débuts à l'English National Opera dans le Barbier de Séville de Rossini. Il a déjà dirigé l'orchestre de l'Opéra de Montpellier à plusieurs reprises et retrouvera ses musiciens du 22 au 26 mai à l'Opéra Berlioz pour une bohème de Puccini. Philippe Gau vous en dit plus sur son parcours dans son article publié sur le site et l'application de Radio Classique. Un concert pour la fraternité vendredi soir en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris dans le cadre de l'autre saison. Abdelmalik, David Grimal et Ricardo Castro se retrouveront autour de pages d'Arvo Pärt, Beethoven et Messiaen. Ce sera le dernier concert de l'autre saison en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, nous annonce David Grimal, qui nous promet de retrouver un lieu et des horizons fraternels. Rendez-vous donc ce vendredi à 20h. L'entrée est gratuite. Une quête est faite à la fin au bénéfice de l'association Les Margéniaux pour la réinsertion des sans-abri. Le pianiste Pierre-Laurent Aymard et le comédien Denis Podalydès partageront la scène du Théâtre des Champs-Élysées ce dimanche à 11h dans le cadre de la saison de Jeanine Rose. Ils se retrouveront autour du roman autobiographique « Être sans destin », chef-d'œuvre d'Imre Kertész, dont Denis Podalydès lira des extraits, notamment le dernier chapitre, ce chapitre qui raconte le retour à Budapest après la terrible expérience du camp de concentration. S'ajoutent à cette lecture quelques moments musicaux qui permettent, nous dit Pierre-Laurent Aymard, de suspendre, sans l'interrompre, le flux du récit, laissant à l'auditeur le temps d'intérioriser les coups de poing dans le ventre assénés par Kertész. Des pages signées Ligeti, Schoenberg ou encore Courtag. Pièce tirée du cycle Musica Ricercata de Ligeti sous les doigts de Pierre-Laurent Aymard. Pierre-Laurant Aymard qui sera dimanche à 11h au Théâtre des Champs-Élysées avec Denis Podalydès pour ce concert lecture autour de l'œuvre d'Imre Kertész, Être sans destin.
Laure Maison sur Radio Classique.
Second violon du quatuor ébène, il aime également, comme ses partenaires d'ailleurs, s'évader ponctuellement dans d'autres univers musicaux, jouer avec d'autres partenaires, déployer ses talents de soliste. Gabriel Lemagadure vient de s'illustrer au disque dans un magnifique programme de musique française avec le pianiste Franck Bralet et le jeune quatuor Agathe. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir Laure.
Vivre d'autres aventures musicales plus individuelles, c'est important. Est-ce que c'est même essentiel pour un musicien de quatuor? Est-ce que c'est une façon aussi d'entretenir la flamme du quartettiste que d'aller jouer d'autres choses avec d'autres partenaires?
C'est vrai que ce sont deux métiers radicalement différents, le métier de second violon notamment de quatuor et celui de soliste. Et je pense que l'un peut nourrir l'autre et j'ai mis longtemps avant de faire le pas. Parce que c'est vrai que c'était une vraie décision personnelle que je maturais depuis un certain moment. Mais quelque part, j'avais peut-être un peu peur de me lancer, me trouvant peut-être un peu dans ma zone de confort dans le quatuor. Faire le pas d'enregistrer un disque solo était un rêve et c'est devenu à un moment une nécessité qui a été pas mal aidée par le Covid, il faut le dire, comme beaucoup de projets peut-être. Et puis aussi par le fait que, bon, je sais pas, il y avait un côté, j'ai 40 ans, je suis à la moitié de ma vie, pourquoi pas me faire un peu plaisir aussi.
C'est vrai qu'en tant que second violon, ce n'est pas vous qui en général avez la partie mélodique, c'est pas vous qui chantez. Vous aviez cette envie, ce besoin de faire chanter votre violon?
Oui, alors après, le métier de second violon, c'est un métier qui peut être un peu complexe parce que c'est vrai qu'on a du mal à le percevoir, à l'entendre. C'est le seul des instruments sur les quatre du quatuor qui est doublé, donc qui se trouve un peu entre guillemets, parce que c'est vraiment entre guillemets dans l'ombre du premier violon, mais c'est un rôle essentiel sur le rythme, sur la cohésion. C'est comme une espèce de marionnettiste qui est là pour aiguiller les autres et pour être à la fois le cœur, le poumon, le ventre. Enfin voilà, c'est toute une panoplie de choses qui sont un peu cachées comme ça. Et effectivement, le de faire ce pas-là dans le solisme, c'était quelque chose. Enfin, le solisme, c'est même pas le solisme puisque je suis quand même entouré de chambristes.
Mais vous avez la mélodie.
Oui, tout à fait. Là, j'ai peut-être un peu plus de mélodie que quand je suis second violon de quatuor, mais c'est vrai que je pense que c'était aussi un challenge personnel. Ça aide considérablement mon métier de quartettiste d'avoir fait cette chose-là et de me dire que j'en étais capable. C'était un grand pas. Et puis, on apprend beaucoup, beaucoup sur ce qu'on est en tant que musicien et être humain en faisant ce genre de projet. Et je pense que je suis revenu dans le quatuor avec beaucoup plus d'expérience aussi, nouvelle. Donc peut-être des choses aussi différentes à apporter. Mais mon essence reste le quatuor, évidemment.
Thank you.
Le premier mouvement de la sonate pour violon et piano de Guillaume Lequeux par Gabriel Le Magadur au violon et Franck Bralet au piano. Gabriel Le Magadur qui est notre invité ce soir à l'occasion de la sortie de cet album qui associe cette sonate peu connue de Lequeux au concert d'Ernest Chausson. Comment est né ce programme? Quelle a été l'œuvre point de départ? C'est la sonate, c'est le concert?
Ah, tout a commencé par le concert quand même. C'est une œuvre qui me poursuit, je dirais pas qu'il me hante parce que j'ai eu que de beaux rêves avec elle, mais ça fait des années et des années que je la connais en tant qu'étudiant. Moi j'étais second violon dans le Quatuor Ébène la première fois que je l'ai joué avec nos maîtres de l'époque, on était encore étudiants à Boulogne-Billancourt, et puis j'ai découvert ça, on l'a joué en concert au conservatoire, et ça m'a jamais quitté. Je me suis dit mais c'est une œuvre que je trouve quasi parfaite. Alors les pianistes diront pas ça parce qu'ils ont beaucoup à tricoter pendant que le violon en chante indéfiniment, inlassablement, mais je la trouve parfaite. Je trouve que c'est un équilibre extrêmement naturel entre une œuvre orchestrale et une œuvre de musique de chambre. Il y a tout qui est rassemblé dans cette œuvre, la sensibilité extrême, la douleur, l'euphorie, le jaillissement, et je sais pas, j'avais l'impression aussi que c'était une œuvre qui s'adaptait parfaitement à l'instrument qu'est le violon. Et je me sentais bien avec ça, j'avais envie de que ce soit la première œuvre que je puisse mettre au disque. Et la sonate de Lequeux est venue après compléter ce projet.
La sonate de Lequeux, cette sonate, c'est une œuvre d'une grande finesse, d'un grand lyrisme et d'une grande passion. C'est une œuvre que l'on n'a pas si souvent l'occasion d'entendre. Il l'a composée pour Eugène Isaïe. Comment la percevez-vous? Comment en décririez-vous l'esprit?
De toute façon, on n'a pas l'occasion d'entendre beaucoup de Lequeux, puisqu'il n'a pas composé beaucoup de choses, étant mort trop jeune. Chausson également, d'ailleurs. Mais je dirais que ce qui les rassemble, c'est de là, et après je parlerai peut-être un peu plus de Lequeux, mais c'est le fait que quand même ils sont descendants de César Franck. Tous les deux, on sent le cyclisme, plusieurs thématiques qui tournent ensemble. Il y a aussi une grande affinité avec le langage germanique et avec la musique wagnérienne, puisqu'ils étaient tous les deux fanatiques de Wagner. Ils allaient faire des pèlerinages à Bayreuth pour des orgies de ring. On sent quand même dans ces deux œuvres. Alors le Lequeux est peut-être plus intimiste. Évidemment, le fait que ce soit une sonate le rend de toute façon plus intimiste, mais il y a aussi une intériorité extrême et le langage d'un compositeur très jeune qui est multitalentueux, mais qui ne sait pas encore comment mettre tout en équilibre. Et du coup, ça donne une œuvre extrêmement sincère, très jaillissante, très immédiate, je trouve.
Il y a un côté impressionniste aussi, notamment dans la partie piano.
Non, mais c'est ça qui est dingue. Je trouve que c'est un équilibre parfait, encore une fois, entre le langage germanique et la descendance française. Bon, même s'il était belge, Lequeux.
C'est l'école franco-belge.
Voilà, l'école franco-belge de toute façon.
Et ces deux œuvres, Gabriel Le Magadur, elles sont à peu près contemporaines. Elles datent de 1892. On est à la fin du 19e siècle. On est à la fin d'une époque, quelque part, au tournant de la modernité.
Mais je pense surtout qu'elles ont été inspirées, toutes ces œuvres de cette fin de siècle, par une personnalité qui est Eugène Isaïe, qui a tant fait pour l'évolution du violon. Quelqu'un qui, en plus d'être organisateur de concerts, était pédagogue, était violoniste, compositeur. Il a fait évoluer le violon par son son, son charisme, son intérêt pour l'artisanat, pour le violon en lui-même, aussi par sa pédagogie. Et les compositeurs étaient tous devant lui, Debussy, Dindy, Franck, ils se sont tous mis à composer pour lui et pour ce son unique qu'il avait. Donc je pense que c'est par sa personnalité aussi que la musique et les compositeurs ont peut-être changé de mode.
Alors on va écouter maintenant un extrait du concert d'Ernest Chausson que vous avez enregistré, Gabriel Le Magadur, avec le Quatuor Agathe. Jusqu'à présent, vous aviez joué dans la partie de Quatuor de cette œuvre.
Ah mais ça c'est dingue, c'est une des œuvres qu'on a le plus joué en Quatuor, en fait, en accompagnant. On a accompagné Renaud Capuçon avec Nicolas Angelich à l'époque, avec Michel D'Alberto aussi. Janine Janssen, on a fait Daniel Hope, enfin, j'ai un nombre de violonistes extraordinaires avec qui on l'a joué.
Et alors de se retrouver de l'autre côté.
Et ça fout une petite pression quand même. Au début, je me suis dit, mais est-ce que le costume n'est pas un peu grand? Et puis bon, après, la musique fait le reste, il ne faut plus penser à tout ça, mais voilà, j'oubliais Pierre Fouchonneret aussi, sublime violoniste.
L'envoûtante sicilienne du concert d'Ernest Chausson par Gabriel Le Magadur, Franck Braley et le Quatuor Agathe, un enregistrement qui vient de paraître sous le label Appassionato, que l'on écoute avec Gabriel Le Magadur. Un petit mot sur le Quatuor Agathe, ce jeune quatuor que vous avez accompagné d'ailleurs, les musiciens du Quatuor Ébène que vous avez, dont vous avez été un peu les mentors.
Bah, en fait, ça a commencé cette histoire à la Fondation Saint-Gère-Polignac dans le 16e arrondissement. On est tous résidents là-bas. Et puis eux, ils étaient bébés quatuors, hein, je pourrais dire. Et puis on les a pris sous notre aile. Et puis c'est devenu ensuite nos élèves, ce sont devenus nos élèves à l'Académie de Munich qu'on a fondée il y a quelques années. Et puis maintenant, ce sont des collègues, voire des amis.
Des partenaires.
Voilà, des partenaires réguliers. Et puis on a tellement l'occasion d'échanger ensemble sur tellement de sujets différents. Et on a nourri une sympathie réciproque les uns pour les autres. C'est des super super garçons et qui font un métier de manière extrêmement pro et sereine et c'est agréable.
Oui, ils ont sorti une magnifique intégrale des Quatuors de Brahms, dont ils étaient d'ailleurs venus nous dire quelques mots dans le journal du classique. Intégrale publiée comme votre album, Gabriel Le Magadur, par le label Appassionato, label fondé par un ex-collègue du Quatuor Ébène, Mathieu Herzog. Alors, Mathieu Herzog a quitté le Quatuor il y a quelques années. Plus récemment, c'est Raphaël Merlin, le violoncelliste des Ébène, qui a choisi lui aussi de vivre d'autres aventures. Il a été remplacé tout récemment par Yuya Okamoto. Comment s'est fait le choix et comment s'est fait son intégration ?
Ah bah maintenant, je peux en parler avec un peu plus de sérénité qu'il y a quelques mois, parce que j'avoue que c'était quand même une petite traversée du désert. Non pas par la médiocrité des musiciens qu'on a eus, parce qu'ils étaient tous fantastiques, mais parce que le choix, au contraire, était énorme. Et on se demandait bien ce qu'on allait pouvoir faire. Parce qu'on trouvait...
Comment est-ce qu'on choisit ? Il faut que ça matche entre vous ? Il faut qu'il, non seulement que le musicien ait du talent, mais qu'il se passe musicalement et humainement quelque chose ?
Il y a deux aspects qui doivent être tous les deux remplis à 100%, voire plus. C'est l'aspect humain et l'aspect musical. C'est l'épreuve du temps aussi, on s'aperçoit en essayant, j'aime pas ce mot, mais en s'essayant les uns les autres en tournée, surtout, qui on est vraiment et est-ce que la personne en face a envie de rentrer dans ce groupe, est-ce que nous on a envie qu'il ou elle rentre dans ce groupe et est-ce qu'on peut s'adapter les uns aux autres. C'est vraiment une histoire de match et pas forcément de coups de foudre ou de... Évidemment, ça agit aussi, mais on s'est aperçu que le temps a été notre meilleur allié quand même, parce qu'on est très très fiers maintenant avec Yuya d'avoir cette nouvelle équipe solide et qui va durer quand même quelques années.
Mais qui va changer quelque part la couleur, l'identité du quatuor, puisque c'est...
Ah oui, ça
c'est
a déjà
important.
Changé. Ouais. C'est ça, mais c'est ça qui est aussi super pour nous, parce que après 25 ans avec Raphaël, avec notre collègue, on ne peut pas s'imaginer retrouver Raphaël. Et il faut surtout sortir de cet écueil-là parce que si, on fonce dans le mur. Donc là, ce qu'on avait envie de faire, c'était au contraire se faire aussi un peu surprendre par un nouveau collègue, que celui ou celle qui arrive puisse apporter une patte différente et nous faire dire, bah tiens, on n'est pas encore arrivé à un but. Et d'ailleurs, c'est quand même le but, est justement de ne pas accéder à une espèce d'autosatisfaction où on se dise, bon, bah, ça y est, on a fait tout ce qu'il fallait. Non, au contraire, ça nous relance énormément.
Et on se remet en question, enfin, soi-même aussi en tant que musicien, lorsqu'on a un autre partenaire.
Ah oui, énormément. Je trouve que la balance humaine, elle est complètement, j'allais dire déréglée, mais elle est juste différente. Et on est obligé de se réadapter à ça et de la façonner différemment. C'est passionnant.
Alors vous revenez d'une tournée aux États-Unis avec vos collègues du Quatuor Ébène, avec Yuya Okamoto notamment. Comment s'est passée cette tournée ?
Bah, c'était ses premiers pas aux États-Unis, lui japonais de naissance et munichois d'adoption. Donc lui, c'était chaque jour était une découverte. Ouais. Puis on a eu la chance en plus, c'était bien organisé ce coup-ci. On a fait toute la côte est, puis le centre, puis toute la côte ouest. On s'est même retrouvé dans le désert à Santa Fe en panne d'essence. Mais ça s'est vite...
Voilà, des aventures humaines qu'il faut partager. C'est ça la vie de quartettiste. Vous repartez en tournée, alors ce sera plutôt en Europe ces prochains jours, ces prochaines semaines, en tout cas au mois de mai.
Oui, c'est avec le Quatuor Belcea que nous aimons tant. On a un projet d'octueur depuis longtemps avec eux, qu'on avait tourné déjà un tout petit peu.
Octueur de Mendelssohn.
Octueur de Mendelssohn et d'Enesco, qui sont deux chefs-d'œuvre de la musique, là aussi, écrits par des jeunes compositeurs à leur époque. On projette aussi de faire un disque ensemble de ce programme. Mais avant ça, on a cette tournée en mai et une autre tournée aux États-Unis.
Et d'ici là, un concert à Paris, à la salle Gaveau, le 30 avril. Alors non pas avec le Quatuor Ébène, mais avec Franck Bralet, le Quatuor Agathe, l'Orchestra Appassionato et d'autres musiciens. C'est le label Appassionato qui fait une grande fête avec ses artistes.
Voilà, je crois que c'est leur première soirée officielle de sortie de label. Pour ma part, je jouerai avec Franck et les Agathe le concert de Chausson. Et ce sera l'occasion, je pense, une belle fête pour présenter aussi le label officiellement, que ça puisse rentrer dans la cour des grands, parce qu'ils font un travail formidable.
Voilà, et c'est un concert le 30 avril à la salle Gaveau, gratuit sur invitation. Il suffit d'aller vous inscrire pour cela sur le site de la salle Gaveau. Et on va se quitter, Gabriel Le Magadur, avec quelques notes de Mozart, avec vos collègues du Quatuor Ébène, avant l'arrivée de Yuya Okamoto, avec donc Raphaël Merlin au violoncelle, quelques notes d'un quintet enregistré avec Antoine Tamestit. Vous avez d'autres projets d'enregistrement avec les Ébène à venir? Ce sera les Octuors?
Ce sera a priori les Octuors. On a aussi dans les tuyaux un disque jazz, mais je ne peux pas trop en parler. Ouais. Depuis l'Everest beethovenien, on a envie de se calmer un petit peu, mais on va faire repartir la machine bientôt. Et puis j'avais une petite dédicace à faire personnelle, parce qu'il se trouve que la personne qui enregistre cette émission sur Radio Classique a été mon ingénieur du son et directrice artistique de mon projet avec Franck et Léa Gatt, Lucille Metz. Donc c'est rare de pouvoir faire une dédicace à quelqu'un qui est 2 mètres à côté de soi derrière un...
Voilà, qui est en train de rougir là derrière la
vitre. Mais
on l'embrasse, Lucille, merveilleuse ingénieure du son. Ben, nous aussi on l'adore à Radio Classique. Merci beaucoup Gabriel.
Merci.
Le le final du troisième quintet à cordes de Mozart par le quatuor Eben et l'altiste Antoine Tabestit. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Michel D'Alberto. Et tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.